Dialogue entre Congolais à présent avec Alain Hung à la présentation.
Merci Tina Salama. Bonsoir. Deux thèmes dans l'émission de ce soir. Suivi de l'application de la loi d'amnistie dans les deux Kivu, des personnes non concernées par cette amnistie déjà en liberté à Beni au nord Kivu. Comment cela s'explique-t-il? C'est le premier thème. Le deuxième, selon un rapport des experts de l'ONU publié le 18 mai dernier, les rebelles Hutu-Rwandais toujours actifs à l'est du pays, malgré l'opération conjointe par des armées rwandaises, quelle analyse faire des conclusions de ce rapport? Pour en parler, nous recevons comme invité Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu et membre du comité de suivi des accords de paix, Moïse Nyarugabo, sénateur et membre du parti politique RCD, Dismas Kisenge, président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale des droits de l'homme. Ils sont tous au téléphone. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Suivi de l'application de la loi d'amnistie dans les deux Kivu, des personnes non concernées par cette amnistie déjà en liberté à Beni au nord Kivu, le coordonnateur du bureau de droits de l'homme de la MONUC Bukavu se dit inquiet de la façon dont cette loi est appliquée. Pour lui, certaines personnes non concernées par cette amnistie sont déjà en liberté et cela risquerait d'avoir des conséquences fâcheuses. Il demande aux magistrats d'être attentifs pour ne pas détourner la loi de son objectif. On écoute Luc Enkenband, coordonnateur du bureau de droits de l'homme de la MONUC Bukavu, au téléphone de Kelin Côté.
Je pense que les groupes armés ont de fait fourni les noms de ceux qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques, comme ils les appellent, et que malheureusement, peut-être certains groupes ont rajouté d'autres noms que ceux de leurs combattants, et c'est pour ça que ces listes doivent faire l'objet d'un examen très attentif avant qu'on ne procède aux libérations.
Et au niveau du bureau de droits de l'homme de la MONUC Bukavu, qu'est-ce que vous avez fait pour que cette amnistie ne s'applique pas de façon abusive?
Bon, nous avons fourni aux magistrats, par exemple, le texte de la loi, parce que il faut tout d'abord que les personnes chargées de mettre en œuvre la loi la connaissent bien. Nous avons attiré leur attention sur le fait qu'il faut être très très attentif pour ne pas justement détourner la loi de son but.
Pour rappel, la loi d'amnistie pour faits insurrectionnels et de guerre commis dans le nord et sud Kivu a été promulguée par le président Joseph Kabila le jeudi 7 mai dernier. Cette loi est le résultat des accords signés entre le gouverneur et les groupes armés actifs au nord et au sud Kivu dans le cadre du processus de paix dans cette région. Elle couvre la période comprise entre juin 2003 jusqu'à la date de sa promulgation. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci bien, c'était pour m'assurer que vous êtes en ligne. Dismas Kisenge, bonsoir également.
Bonsoir.
Sénateur Moïse Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de vous donner la parole, je vous invite à suivre à présent la réaction des groupes armés. De leur côté, il s'agit là d'une fausse information parce que tous les noms des personnes qui sont reprises sur les listes sont bel et bien ceux qui sont concernés par l'amnistie. On écoute Didier Bitaki, porte-parole des groupes armés du Nord Kivu dans le comité national de suivi. Il est une fois de plus au téléphone de Kelin Côté.
Le groupe d'armées ont publié les listes de leurs détenus il y a longtemps et ces listes se trouvaient justement sur toutes les tables des autorités concernées. Maintenant, je ne sais pas quelle est la personne qui a été dénichée parmi ceux-là déclarés, qu'elle était réellement impliquée dans une autre affaire autre que l'insurrection. Et si cette personne existerait, pourquoi ne pas associer les responsables des groupes armés au lieu d'aller les faire en cachette? Moi, je suis juriste de formation. Si on veut examiner ce cas, pourquoi on ne peut pas m'associer? Parce que je suis même dans le comité national de suivi. Ceux qui pouvaient nous informer ne le font même pas. Ils vont libérer qui? c'est nous qui connaissons les personnes qui doivent être libérées. Comment on va nous parler des questions de libération des prisonniers sans nous associer nous-mêmes? Il faudra que nous participions. Faute de quoi, ce sera de la tricherie et là, on ne va pas tolérer.
Moïse Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes sénateur et membre du RCD. Comment expliquez-vous que certaines personnes non concernées par cette amnistie soient déjà en liberté, fait que rejettent évidemment les groupes armés?
Écoutez, je ne comprends pas d'abord ce que cela veut dire. Je ne comprends pas comment on peut dire que les personnes non concernées par l'amnistie sont libérées. Avant les concernés, je pense qu'il faut retenir deux choses. La première, c'est que l'amnistie a été négociée et la loi a été votée pour couvrir, pour assurer ceux qui ont fait la guerre, afin qu'ils puissent mettre fin à la guerre et qu'ils soient intégrés, les militaires dans l'armée, ou pour ceux qui voudront faire l'armée, et les autres dans la vie civile, mais aussi les autres dans les institutions. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui étaient en prison. C'est même pour ceux qui ne sont pas en prison, mais qui ont fait la guerre, parce que c'est pour des faits de guerre et insurrectionnels. La deuxième chose, ceux qui étaient en prison, avant, ils sont sur base des listes qui ont été données par les groupes armés qui sont concernés, que les libérations vont se faire. Alors comment on peut libérer les personnes qui ne sont pas concernées, donc qui n'étaient pas sur les listes? Si cela a été fait, c'est de la pure tricherie. Je voudrais d'abord comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Ceux qui disent qu'il y a des personnes non concernées qui ont été libérées, j'ai besoin qu'on m'explique. Mais si, par impossible, il y a eu des personnes qui ont été libérées en fonction de la loi d'amnistie, mais qui n'était pas concerné par les listes données par les groupes armés, c'est de la pure tricherie, comme il y en a eu d'autres cas, ce ne sera pas le premier cas.
Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous venez de suivre le sénateur Moïse Nyarugabo, qui semble ne pas très bien comprendre ce que tout cela veut dire. À votre avis, comment vous expliquez ce fait?
J'explique ce fait d'abord par la simple coïncidence que la plupart des groupes armés qui ont signé l'accord et qui sont concernés par l'amnistie, nombreux parmi ces groupes sont ceux qui ne veulent pas que réellement leurs membres qui ont commis des graves violations de droits de l'homme soient poursuivis par la justice. C'est pour cela il y aurait, je dis bien il y aurait, de manœuvres pour le faire inscrire sur la liste de ceux qui doivent bénéficier de cette amnistie. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que l'application de cette amnistie doit, en tout cas, être rigoureusement surveillée par les juridictions compétentes pour qu'il n'y ait pas de gens qui ne peuvent pas bénéficier de ça, qui puissent en profiter. Troisièmement, ce n'est pas une hypothèse, c'est un principe qu'il faut réaffirmer. Que l'amnistie, telle que ça a été accordée, disons, aux groupes armés, ne doit pas enfreindre les efforts du rétablissement de la justice au Congo, c'est-à-dire particulièrement de la lutte contre l'impunité et de la violation des droits de l'homme. Et ça, on ne peut pas empêcher aux victimes qui ont souffert de ces graves violations des droits de l'homme d'être en justice contre le violateur de ses droits. Et là, nous devons nous féliciter du fait que cette amnistie ne concerne pas les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les actes de génocide ou encore d'autres graves violations des droits de l'homme, telles que les violences sexuelles, telles que les actes de torture, qui doivent être imprescriptibles. Et là, ça, c'est un effort louable qui a été accompli par notre législateur. Et là, les victimes ont toujours la possibilité, disons, d'être en justice. Donc, à ce stade, j'aimerais bien dire que il faut que tout le monde, pas seulement les juridictions, y compris la société civile, y compris les groupes armés, y compris le gouvernement, y compris les parlementaires, puissent surveiller vraiment l'application de cette amnistie.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes l'autorité provinciale, mais nous avons tenté pour notre part, à travers nos reporters, d'avoir la réaction des autorités judiciaires de la province. Le procureur de la République en Nord-Kivu avait refusé de parler de la mission qu'il avait menée à Butembo à ce sujet. Qu'est-ce que vous en savez en tant qu'autorité provinciale?
Oui, tout ce que je sais, c'est que une amnistie ne peut pas passer sans provoquer de rancœur ou, si vous voulez, des gens qui ont fait la guerre, qui visiblement sont lavés de l'insurrection qu'ils ont menée, cela ne doit pas réjouir beaucoup de gens. C'est tout à fait normal. Mais je sais que au niveau de la justice, le ministre de la Justice avait déjà écrit à le procureur pour leur dire que il avait reçu les listes de tous les groupes armés et qu'il leur demandait effectivement de procéder à la libération des personnes qui étaient concernées par cette amnistie-là. Alors ce que je sais, c'est qu'il y a eu à Beni et à Butembo, c'est exactement des libérations qui tiennent compte de la liste qui avait été déposée par les groupes armés. Mais je voudrais par ailleurs rappeler que si d'aventure il y a une personne qui a été libérée et qui naturellement serait poursuivie par d'autres types de crimes, je crois qu'il est loisible à ceux qui se sentiraient être concernés par de tels cas de pouvoir rappeler rapidement l'autorité judiciaire pour que des cas spécifiques comme cela soit rapidement étudié. Parce que je sais que quelqu'un peut avoir bénéficié d'une mesure d'amnistie alors qu'il est poursuivable par d'autres infractions. Vous vous rappelez qu'à travers cette loi, l'intervenant qui m'a précédé l'a bien dit, ce sont les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide ne sont pas concernés par cette amnistie. Et donc il y a des gens qui savent que telle personne a un dossier bien documenté qui renseigne qu'il a des crimes, qu'il a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, eh bien, l'autorité ne peut pas s'opposer à ce que de telles personnes soient rapidement reprises.
Mais monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a quand même des sources proches de la MONUC, hein, Beni, qui confirme qu'il y a des détenus de délits de droit commun qui ont été libérés. 5 particulièrement.
Vous savez, c'est un dossier qui a été géré par les autorités judiciaires. Et c'est pourquoi j'ai dit, si réellement il y a des personnes qui peuvent nous alerter avec des preuves, avec des documents bien faits, qui renseignent que plutôt tel a été libéré alors qu'il ne s'est pas passé par une loi d'amnistie, eh bien, en tant qu'autorité provinciale, je suis prêt à parler au sein du comité provincial de sécurité avec le procureur pour que ce cas soit connu. Mais jusqu'à présent, au niveau de la province, on n'a pas encore reçu une seule revendication, une seule réclamation qui atteste effectivement qu'il y a des cas comme cela. C'est au niveau de la radio Okapi qu'on est en train de l'apprendre, alors que l'administration ne devrait pas fonctionner à la radio.
Vous allez quand même le vérifier de votre part aussi.
Allô?
Je disais que vous allez aussi le vérifier, n'est-ce pas?
Oui, je sais que des libérations ont eu lieu, mais à ce stade, il n'y a aucune revendication, aucune réclamation qui est arrivée sur la table du gouverneur pour que rapidement le gouverneur puisse en saisir.
Merci. Sénateur Moïse Nyarugabo, vous venez de suivre le gouverneur Julien Paluku qui affirme qu'il y a eu des libérations, mais que jusque-là, il n'avait pas encore pour sa part noté des cas de personnes non concernées par l'amnistie qui ont été libérées. Il se pose évidemment un problème de fiabilité de ces listes qui sont déposées par les groupes armés. Comment s'assurer de cette fiabilité?
Écoutez, je continue à insister à dire que l'amnistie, la loi sur l'amnistie que nous avons votée ne concerne pas uniquement ceux qui étaient en prison. C'est même principalement pour ceux qui ne sont pas en prison, pour ceux qui sont en liberté, pour qu'ils ne soient pas poursuivis pour les actes qu'ils ont commis, pour les faits de guerre ou les faits infractionnels, mais aussi à ricocher pour ceux qui sont en prison pour qu'ils soient libérés. Ça, c'est la première chose. Et là, on doit se mettre d'accord. Mais alors, si on doit revenir sur le cas de ceux qui sont en prison, ceux qui étaient en prison, c'est une question issue des négociations. il n'y a pas d'autre magie. À mon avis, c'est une question de négociation. Ce sont les groupes armés qui doivent présenter les listes de leurs membres qui sont en prison et qui doivent prouver que ces personnes sont effectivement leurs membres et qu'ils ont commis des faits de guerre ou des faits insurrectionnels et pas d'autres, et qu'ils ne sont pas poursuivis pour d'autres chefs. Et si tel est le cas, je crois qu'il n'y a pas d'autre magie, c'est une question de négociation, et dans la question de négociation, il y a une question de confiance entre les parties. Je ne vois pas comment on peut procéder autrement, mais c'est aux groupes armés de dresser les listes, c'est aux groupes armés de prouver que ces personnes sont leurs membres, et c'est aux groupes armés de prouver que ces personnes ne sont poursuivies que pour les faits de guerre insurrectionnelle.
Merci.
Si la justice démontre le contraire, ou s'il y a des plaintes, comme le gouverneur l'a dit, il faut que les autres personnes établissent que les personnes concernées ne sont pas, par exemple, membres de ces groupes armés, ou alors que ces personnes sont poursuivies, qu'il existe bel et bien des dossiers relatifs au crime de guerre, au crime contre l'humanité ou au génocide.
Merci. Dismas Kitenge, le sénateur Moïse Nyarugabo réaffirme que ce sont les groupes armés qui doivent donner les listes de personnes qui doivent être amnistiées. Et dans votre première hypothèse, vous avez soutenu qu'il se pourrait que ces groupes armés ne puissent pas vouloir que leurs membres soient poursuivis. Comment, à votre niveau, pensez-vous qu'on peut le problème de fiabilité en fait de ces listes, comment vous le percevez-vous?
C'est ça la difficulté de tout cet accord qui a été d'abord négocié entre les parties conflits et entre elles-mêmes et qui n'a pas été rendu public. Il faudrait donc cette liste-là, de toutes les listes de tous les groupes armés, soit publiée, disons, à la presse, par le gouvernement, que tout le monde sache qui doit bénéficier de l'amnistie. Et ça va lever tout équivoque, ça va éviter la confusion. La deuxième chose, comme je disais, il faudrait donc que tout le monde surveille l'application de cette amnistie. Au premier chef, il y a d'abord les juridictions compétentes pour pouvoir procéder soit à la libération ou soit au fait que les gens doivent, les faits qui sont concernés doivent bénéficier de cette amnistie. En deuxième lieu, le gouvernement et toutes les institutions, y compris également le Parlement. Et là, je suis content que le sénateur Nyarugabo, que je connais pour son engagement pour les questions de justice, puisse également au sein de différents groupes avec ses collègues surveiller l'application de cette amnistie. En troisième lieu, la société civile. La société civile, dont les victimes de violations graves des droits humains qu'avaient commises le groupe aux armées sans qu'on se retrouve. Donc il faudrait que nous puissions également accéder à ces listes pour pouvoir surveiller qu'il n'y ait pas de manège. Donc à l'heure actuelle, il faut dire que ces listes-là sont encore un peu gardées entre les groupes armés, entre les signataires de l'accord, communiquer peut-être au gouvernement, et là aussi on ne voit pas non plus beaucoup de bonne volonté du gouvernement et des différents groupes armés à rendre ces listes publiques pour que tout le monde suive que telle personne doit bénéficier de cette amnistie et que ce n'est pas une autre qui ne figure pas. Donc voilà la difficulté qu'on a à ce moment-ci, et cette difficulté est réelle, et je crois qu'il faut que toutes les parties arrivent à résoudre ces problèmes pour rendre les listes publiques effectives.
Merci. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Je vais vous demander de réagir en 30 secondes avant de passer à notre second thème. Jacques Assung de Bukavu se demande, en termes de droit, qu'est-ce que les prisonniers visés par cette loi d'amnistie devraient attendre pour que leur libération soit effective. Hilaire Aguinonga de Bougna en province orientale affirme que l'amnistie a encouragé l'impunité au lieu d'une vraie paix. Il rejoint Kamaliro de Butembo Nord Kivu qui demande si l'amnistie est synonyme de l'impunité. Augustin Mwango Waupenda de Kindu estime que cette libération est la preuve de la justice sélective qui est de nature à remettre en cause le processus de paix. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, votre réaction en 30 secondes pour clôturer ce premier thème.
Oui, moi je crois que ce que je dois dire à ces auditeurs, c'est qu'une loi d'amnistie, c'est le résultat d'une négociation. En fait, le prix à payer pour la paix, c'était de pouvoir faire voter cette loi au niveau de notre Parlement.
Monsieur le gouverneur? Ah, nous avons quelques soucis avec Monsieur le Gouverneur Julien Paluku. Nous allons poursuivre notre émission suivi de l'application de la loi d'amnistie dans les deux Kivu, des personnes non concernées par cette amnistie, déjà en liberté à Beni au nord Kivu. Comment cela s'explique-t-il? C'était notre premier thème. Le deuxième thème de cette émission, selon un rapport des experts de l'ONU publié le 18 mai dernier, les rebelles Hutu-Rwandais toujours actifs à l'est du pays, malgré l'opération conjointe FARDC armée rwandaise. Quelle analyse faire des conclusions de ce rapport? Pour en parler, nous avons comme invité dans cette émission Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu et membre du Comité national de suivi des accords de paix, Moïse Nyarugabo, sénateur et membre du parti politique RCD, Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale des droits de l'homme, avant de poursuivre avec la deuxième partie le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Les rebelles Hutu-Rwandais toujours actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré l'opération militaire FARDC armée rwandaise au début de cette année. C'est ce qu'indique un rapport de 5 experts de l'ONU publié le 18 mai dernier. Ce rapport souligne le caractère mal planifié d'intégration des ex-combattants des groupes armés au sein des FARDC et accuse toutes les parties d'être responsables des exactions perpétrées sur les terrains. Les grandes lignes de ce rapport avec Jacques-Yves Molima.
D'après la dépêche de l'AFP qui cite ce rapport d'État transmis au Conseil de sécurité de l'ONU par les 5 experts, l'opération conjointe FARDC armée rwandaise menée du 20 janvier à fin février a souffert de sa brièveté, de problèmes logistiques et du détournement des fonds opérationnels. Selon ces experts de l'ONU qui ont passé 5 semaines dans l'est de la RDC, l'opération a échoué à briser la structure de commandement des FDLR qui reste intacte. Cela se vérifie d'après ce document par des contre-attaques menées par les FDLR dans les différents lieux du nord et sud Kivu, entraînant une augmentation des victimes civiles. Le dit rapport souligne également l'indiscipline aggravée des combattants du CNDP et autres groupes armés intégrés au sein des FARDC à cause de l'arrivée tardive de leurs soldes. Les experts affirment par ailleurs avoir trouvé des preuves qu'un nombre d'anciens officiers CNDP qui sont maintenant dans les FARDC agissent dans des structures de commandement parallèles. Et le rapport de conclure que des exécutions arbitraires, des tueries en représailles, des enlèvements et des destructions volontaires des biens sont attribués au FDLR, tandis que les violences sexuelles, le travail forcé, les pillages et le mauvais traitement sur les civils sont le fait des FARDC.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, quelle analyse vous faites des conclusions de ce rapport?
Oui, en lisant très bien ce rapport, je suis d'accord avec l'esprit général du rapport et non pas l'esprit sélectif.
C'est-à-dire?
Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, lorsque le rapport cite qu'il y a effectivement un activisme des FDLR, là je suis parfaitement d'accord avec les auteurs du rapport, mais lorsqu'ils entrent dans les détails en train de dire que rien n'a été fait, l'opération a échoué, que les exécutions...
Monsieur le gouverneur, encore des petits soucis avec la ligne du gouverneur Julien Paluku, le temps que la réalisation le retrouve. Sénateur Moïse Nyarugabo, quelle est, vous, votre analyse de conclusion de ce rapport?
Merci, monsieur le journaliste. Je m'excuse beaucoup. Je veux juste dire un mot sur la question précédente. Je veux juste
dire, je vous en prie rapidement,
que l'amnistie enlève aux faits infractionnels leur caractère infractionnel. Donc, dans l'application de cette loi, le gouvernement doit en tenir compte. C'est en fait un pardon. Ce n'est pas l'impunité, c'est différent. Et on doit savoir ce qu'on veut. Deuxièmement, je passe à la question que vous venez de poser.
Je vous en prie.
Le rapport des Nations Unies, ou des experts des Nations Unies, répète ce que nous avons toujours dit, nous tous, sur votre antenne et ailleurs, et ce que d'autres observateurs, les critiques nous ont toujours adressé, mais que nous n'aimons pas entendre. En fait, si nous ne voulons pas qu'on dise le mal que nous faisons, ou même que nous-mêmes nous puissions dire le mal que nous faisons, nous allons continuer à nous tromper nous-mêmes. On dit, les rebelles Hutu-Rwandais sont actifs, ils commettent des exactions. Qu'est-ce qui est faux? Tout le monde le sait. Chaque jour,
sur vos antennes et sur d'autres radios périphériques, on nous dit ils ont tué autant, ils ont attaqué tel village, ils ont brûlé sa maison, ils ont tué beaucoup de dizaines de Congolais. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce que pour ça, on doit attendre le rapport de la Nations Unies? On le fait. L'opération conjointe, qui ne sait pas que c'était très bref. Quelle opération on peut faire en 20 jours, en 30 jours, dans toutes les forêts du Kivu, même si on est expert en guerre? Il y a un problème de distance, il y a un problème de temps de préparer l'opération, de prendre position, de maîtriser le terrain et de commencer. Non, je n'ai jamais compris comment on a eu le courage d'accepter que l'armée rwandaise vienne au Congo, mais on n'a pas eu le courage de lui donner 3 mois, 6 mois pour faire bien les choses et terminer ça pour toutes. En fait, qui paye mal, paye deux fois. Peut-être qu'on sera obligé de demander encore à l'armée rwandaise de revenir parce qu'on n'a pas eu le courage d'assumer et de dire faisons calmement l'opération, allons jusqu'au bout et demandons effectivement les délais. Je n'ai jamais compris de quoi on avait peur pour accorder 20 jours, 15 jours, 30 jours, comme si on veut, comme si on ne veut pas. Alors, quand on parle des fonds qui sont détournés, monsieur, combien de fois on a dit qu'il est arrivé au commandement de notre armée d'acheter son sac de haricots à envoyer à Goma, on les a achetés à Kinshasa, on les a mis dans l'avion pour les envoyer à Goma. Et c'était le haricot produit à Goma. Donc c'est des choses. Tant qu'on n'aura pas encore décidé de poursuivre ce genre de pratique et de sanctionner sévèrement à partir de la tête, c'est pas les petits soldats. On va sanctionner la discipline, ça doit commencer au niveau du commandement, ça doit commencer au niveau des supérieurs. Quand les supérieurs ne sont pas punis, ne sont pas sanctionnés, les petits soldats voient l'exemple, ils font. Donc je veux dire, monsieur le journaliste, que ça gêne, c'est même une honte qu'on dise que nos militaires font la même chose que les FDLR, c'est une honte. Dans la partie où cela est vrai, même si c'est en partie, il faut arrêter ça. Même nos militaires ne peuvent pas accepter qu'on dise que c'est la même chose. J'ai entendu certaines populations dire que c'est vraiment la même chose. Les FDLR viennent, ils tuent, ils brûlent. Quand ils partent, ils partent de ces ils font la même chose. C'est merci. Inacceptable.
Nous allons donner l'occasion au gouverneur Julien Paluku de répondre. Monsieur le gouverneur, vous étiez en train de dire avant que vous, quand vous perdez, que pour vous, dire que rien n'a été fait, c'était trop, mais le sénateur Moïse Nyarugabo dit que ce rapport reflète en tout la réalité sur terrain.
Oui, effectivement, j'étais en train de faire une analyse pour dire que je suis d'accord avec l'esprit général du rapport. Là, il signale qu'il y a cet activisme des FDLR qui, à gauche, à droite, sont en train de piller, de tuer. Mais je ne suis pas d'accord avec un passage qui signale que le fait de violence sexuelle, c'est un fait des FARDC. Parce que, dernièrement, lorsque le conseil de sécurité était à Goma, j'ai accompagné la délégation des ambassadeurs à Kiwanja, à la tête de laquelle l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert. Et nous avons été reçus par le commandant de la MONUC, qui est basé à Kiwanja, avec une dame qui est responsable des droits de l'homme. Les deux personnalités des Nations Unies ont confirmé effectivement que depuis que les FARDC ont repris les espaces, il y a une réduction sensible des violations des droits de l'homme. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les deux personnalités de l'ONU qui l'ont confirmé à la délégation des ambassadeurs. Mais je sais par ailleurs qu'il y a des exactions qui sont commises par quelques indisciplinés au sein des FARDC, et bien évidemment c'est très regrettable que cela se fasse. Mais ce qui se fait exactement comme exaction vis-à-vis des populations, c'est le fait des FDLR qui naturellement sont localisés dans les forêts à l'intérieur de Walikale et qui sortent de ces forêts pour venir commettre des exactions sur les populations qui habitent les limites entre Massissi, Walikale et le sud du territoire de Lubero.
Monsieur le gouverneur,
du rapport, mais ne pas accepter
des petites lignes qui sont en train uniquement de se limiter sur les accusations, alors que les mêmes personnes des Nations Unies disent le contraire lorsque c'est la contrôle.
Mais monsieur le gouverneur Julien Paluku, ce ne sont pas que les experts des Nations Unies hein, qui ont confirmé ces exactions. Il y a plusieurs ONG, plusieurs organisations des droits de l'homme qui font le même constat.
Exact, oui, je n'ai ni pas qu'il n'y ait pas d'exactions. Ce serait malhonnête pour moi parce que je n'ai jamais voulu l'être. Ce serait malhonnête pour moi de dire que je suis en train de laver littéralement les FRDC sur le terrain. Je ne le dis pas comme cela. Mais j'ai dit effectivement que les peu d'exactions que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas l'œuvre naturellement des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est l'œuvre de quelques indisciplinés qui d'ailleurs sont en train d'être rattrapés un à un et mis à la disposition de la justice. Et ce sont des efforts qu'on est en train de faire progressivement, mais qui n'ôtent pas les caractères infractionnels à certains FRDC qui sont en train de commettre ces actions-là.
Et les cas, par exemple, des détournements de la solde des militaires, de leurs rations.
Au niveau local, c'est des choses qui circulent dans la mémoire collective, mais comme le sénateur l'a bien rappelé, et j'ai beaucoup d'estime sur les analyses qu'il a toujours faites dans les émissions sur Radio Okapi, j'estime qu'il y a une part de responsabilité aussi de nos élus qui se retrouvent être au Parlement au niveau national. Si nous devons, devant cette radio, commencer à parler des détournements de la solde des militaires, alors que il y a une structure ou une institution qui a un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Et à mon niveau, moi, je pense que c'est plutôt à Moïse Nyarugabo à qui nous demanderions qu'est-ce que les députés et sénateurs seraient en train de faire si on doit naturellement nous limiter à faire des constats sur le détournement, alors qu'ils ont le plein pouvoir de demander qu'est-ce qui se passe, combien d'argent a été envoyé au niveau des unités basées au Nord Kivu, combien d'argent dépensé. C'est cela le rôle que en fait, les institutions dans la démocratie jouent les unes vis-à-vis des autres.
Merci, M. le gouverneur. Dismas Kitenge, vous venez de suivre les deux positions du sénateur Nyarugabo, pour qui ce rapport reflète la réalité sur terrain, et pour le gouverneur Julien Paluku qui essaie de le nuancer. Votre réaction?
Merci beaucoup. Je peux revenir rapidement sur l'amnesty en quelques minutes.
Très rapidement, alors, parce que...
L'amnesty...
Allô, Dismas?
Oui.
Essayez de bouger un peu. Nous avons beaucoup de mal à vous capter. Essayez de bouger un tout petit peu.
Je disais que l'amnesty est une mesure politique d'abord, avant d'être judiciaire, et que en tant qu'elle, si elle n'est pas bien menée, en maîtrisant bien les paramètres du terrain, le besoin des victimes, l'impératif de la société, elle risque gravement de contribuer à l'impunité. Et dans le contexte congolais, ça s'est fait, l'amnesty qui vient de s'accorder aux groupes rebelles, si on ne fait pas attention, contribue d'une manière ou d'une autre à l'impunité. Je ne cite que là le cas de Bosco Ntaganda, s'il est concerné par cette mesure, évidemment, dans le contexte de fait, en attendant les crimes internationaux qu'il a commis, contribue à l'impunité. Je reviens sur la question des FDLR. Concernant le FDLR, je dois dire ceci, que le rapport des Nations Unies ont vraiment retracé la véracité de faits. Mais elle devait aussi montrer le limite de l'opération militaire conjointe FRDC armée rwandaise. Comme le rapport le disait, que ces opérations n'ont pas été bien planifiées, mais que ces opérations, en quelque sorte, ont contribué également à la reprise de la coopération entre la RDC et le Rwanda. On avait vraiment besoin de ça, ça c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est que l'opération n'a pas atteint tous les objectifs. Et aujourd'hui, l'activisme de FDLR est... Aujourd'hui, le fait de l'impunité de l'armée congolaise est aussi un fait réel.
Allô, Dismas? Dismas Kitenge, nous avons encore beaucoup de difficultés à vous capter. Essayez de bouger. Si vous êtes dans une salle, essayez d'être un peu à l'air libre. Ça nous permet de mieux vous capter.
Voilà, donc je disais que l'opération n'a pas atteint tous les objectifs et qu'il faudrait maintenant penser à une solution plus efficace. La solution plus efficace, c'est laquelle? Est-ce que vous n'avez pas parlé de proposition de Vous n'avez pas parlé de propositions de ces experts.
Allez-y.
Mais moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui penser à une formule qui puisse impliquer le plus d'acteurs internationaux qui ont la capacité d'agir. Puisque il est clair que maintenant, toutes les forces capables de venir de l'air avec les LRA sont limitées. Et il faut qu'on pense alors à une formule beaucoup plus de le plan international pour mettre ça neutralisé parmi étrangers nationaux qui commettent cette violation de droit.
Merci Dismas, le temps de prendre une meilleure position pour que nous puissions bien vous capter. Sénateur Moïse Nyarugabo, Dismas Kitenge vient de proposer qu'il y ait un peu plus d'acteurs sur le plan international pour résoudre la question des FDLR, et le gouverneur Julien Paluku vous a posé la question: qu'est-ce que vous, députés, vous faites, qu'est-ce que vous, parlementaires, vous faites au lieu de toujours condamner, comment vous y répondez?
Je veux dire deux choses. D'abord, à la question du gouverneur Paluku, je veux dire que le travail du Sénat et de l'Assemblée nationale ne peut pas nous empêcher de dénoncer le mal. L'Assemblée nationale et le Sénat interpellent les membres du gouvernement régulièrement. Il y a 2-3 jours, le ministre de la Défense était au Sénat et ils nous disent que nous sommes encore dans le processus de la réformation de l'armée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils disent on est encore dans le processus, on n'a pas encore terminé, il y a donc des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Et le contrôle, il y a beaucoup de contrôle que le Parlement fait, et les résolutions sont dans les tiroirs. Donc le Parlement a le pouvoir de contrôle, mais il n'exécute même pas les résolutions issues de ce contrôle, c'est toujours le gouvernement qui doit le faire. Mais cela ne doit pas nous empêcher de dénoncer toutes les fois que nous en avons l'occasion. Et on dit, pas qu'on contrôle le gouvernement, on doit se taire, on laisse faire. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Et le travail du contrôle, nous le faisons, mais et le travail de dénoncer, nous le faisons, pour que, et au niveau de l'armée, et au niveau du gouvernement, un travail de qualité soit fait pour arrêter ce genre de pratiques.
Alors, sénateur,
de
la proposition de Dismas qui prend.
La proposition que vient de faire Dismas, moi, je n'ai jamais cru qu'une force internationale, qu'elle soit de la forme d'Artemis ou autre, même la MONUC, aura la capacité ou la possibilité d'aller faire la guerre dans nos forêts, à Chabunda, à Walikale, pour chasser les interamos. Je n'y ai jamais cru. Je voudrais avoir tort que les autres aient raison. C'est pour cela qu'il y a des années, nous avions proposé que les armées concernées qui ont beaucoup plus d'intérêt, évidemment, qui n'ont pas intérêt plus que le Congo, parce qu'aujourd'hui, les interamos, les LRA, ceux qui les tuent sont des Congolais, ceux qui les violent sont des Congolaises, là où ils détruisent la faune, flore et tout, c'est au Congo, donc nous sommes les plus intéressés. Mais les autres, intéressés autant que nous, ce sont ces pays concernés, donc le Rwanda et l'Ouganda.
Et qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement?
Si elle est bien planifiée, si on lui donne les moyens et le temps, elle aura beaucoup plus de facilité pour démanteler ce genre de groupes armés qu'une force internationale. Je ne vois pas, même aujourd'hui, même dans Kinia 2, comme on le dit, comment la MONUC va aller à Walikale et entrer dans ces forêts faire la guerre aux interamos. Je ne vois pas. J'espère que c'est moi qui ai tort et que les autres ont raison.
Gouverneur Julien Paluku, vous venez de suivre le sénateur Moïse Nyarugabo. Il dit qu'ils font leur travail de parlementaire, mais les résolutions restent dans les tiroirs du gouvernement ou de l'Assemblée nationale et du Parlement. Et il doute par rapport à la proposition de Dismas Kitenge, une force internationale ne pourra rien faire. Et il propose par contre qu'on donne beaucoup de temps et des moyens au Rwanda et pour mener à bien cette opération. Monsieur le gouverneur, non, on ne vous a pas très bien compris. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, nous l'avons encore perdu à la réalisation, on va essayer de le retrouver. Dismas Kitenge, vous venez de suivre le sénateur Nyarugabo, lui émet des doutes quant à votre proposition sur l'intégration, l'implication d'autres acteurs internationaux.
Mais quand nous parlons des acteurs internationaux, nous n'excluons pas le Rwanda, ni l'Ouganda, ni le Soudan. Ils sont des acteurs internationaux par rapport à nous. Mais il faut faire une formule qui puisse se prendre et les pays concernés et la communauté internationale ensemble pour faire cette craque-là. Ça, c'est le premier niveau de ma proposition. Le deuxième niveau de ma proposition, c'est qu'il y a aussi des solutions politiques à cette crise. Il y a aussi des solutions diplomatiques. Il faut penser, il ne faut pas nous leurrer que le FDLR était des alliés du gouvernement congolais. Ça c'est clair. Il ne faut pas nous leurrer non plus que le CNDP était en connivence avec l'armée rwandaise. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi du côté de LRA qui avait des complicités.
Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez?
Ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi la solution politique. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le chef des pays qui sont concernés par ce phénomène-là. Aujourd'hui, on parle de FDLR, mais nous savons que les FDLR sont dans beaucoup de circuits des institutions congolaises. Nous savons aussi que dans l'armée rwandaise, il y a des gens du CNDP. Mais le problème, c'est que la solution politique, dans tous les pays concernés par la crise, il n'y a pas qu'au Congo, il y a aussi d'abord au Rwanda, où il faut trouver une solution politique à travers toutes les formes qu'on peut imaginer. Il y a aussi en Ouganda qu'il faut. Puis ce sont des oppositions de ces pays-là.
Merci.
Et ces pays sont incapables de pouvoir leur donner un espace de liberté d'expression.
Merci. Merci.
Alors, il y a aussi une autre solution sur le plan diplomatique. C'est bien déjà que ça se passe, mais ça peut prendre aussi du temps. Mais voilà, à tous ces trois niveaux, que moi je suggère des solutions beaucoup plus pratiques.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, en 45 secondes, comment vous réagissez à tout ce qui a été dit?
Oui, malheureusement, décidément, les raisons ne me permettent pas de suivre toutes les analyses. Mais moi je crois que ce qui se passe en fait au nord de vous n'est pas tellement nouveau. Ce que nous avons vécu ici, c'est qu'il y avait en face de nous la rébellion du CNDP. Et cette rébellion cachait effectivement d'autres réalités de la province. Mais maintenant que nous avons presque mis fin aux rébellions internes par les négociations, c'est maintenant que les gens sont en train de voir que le FDLR constitue un problème. Alors qu'il était toujours un problème dans cette province. Donc ça, c'est la première chose que les gens doivent savoir. Il y avait en face de nous une réalité qui nous faisait oublier que les FDLR constituaient un danger. Maintenant qu'ils sortent seuls comme danger, ça apparaît comme aux yeux des gens comme quelque chose de nouveau. Mais j'estime que l'option qui avait été prise par le gouvernement, celle d'associer l'armée rwandaise au FARDC pour traquer les FDLR, c'était une option politique de l'époque qui avait eu son succès. Et qu'aujourd'hui, face à l'ampleur du problème, une option autre doit être prise, comme celle qui est aujourd'hui sur le terrain, c'est-à-dire les FDC avec la MONUC. Mais j'ai allé dénoncer dans une émission à laquelle j'ai participé, c'est que les opérations conjointes FDC et MONUC connaissent une certaine lenteur. Parce que vous avez déclaré, Jean-Maurice Huppert avait dit que les 3000 hommes supplémentaires qui devaient arriver arriveront en juillet, alors qu'on en a besoin présentement, actuellement, pour devoir rendre les opérations beaucoup plus musclées, bien, de manière à détruire les quelques bases résiduelles qui s'observent encore à la limite entre le territoire de Massissi et de Walikale. Mais il faut vous dire correctement que aujourd'hui, il n'y a pas de base FDLR qui est constituée au nord Kivu pour dire c'est dans telle localité où sont basés les FDLR. Ils sont arrivés à Nyakiondo, ils sont arrivés à Mianza, ils sont arrivés quelque part, mais ils n'ont pas établi une base qu'ils ont occupée, qu'ils ont contrôlée et à partir de laquelle ils sont en train de mener des opérations.
Merci,
ceux qui connaissent le régime de la guerre savent que ce qui se passe actuellement, c'est naturellement une technique de guérilla qui sont en train de faire un autre niveau.
Merci, monsieur le gouverneur. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vais vous demander de réagir à ces quelques réactions des auditeurs, vraiment en quelques secondes. Olivier Ngabou de Kisangani estime que le gouvernement congolais prenne des décisions sans se soucier de ses gouvernés. Un auditeur anonyme de Kinshasa estime que la traque des FDLR a échoué car elle a été l'œuvre d'une pensée unique. Félix de Lubumbashi dénonce la traque et les tueries orchestrées par les FDLR dans les Kivu. Il considère les opérations conjointes de la traque de ces éléments incontrôlés de mascarade. Pour lui, la faiblesse de nos militaires au front se justifie suite à leur non-paiement par les autorités tant civiles que militaires du pays. Alors, je vais vous demander en 20 secondes, parce que nous n'avons plus de temps, Dismas Kitenge, votre réaction.
Ma réaction est la suivante. Le Congo traverse un moment très difficile où elle est en train de négocier à la fois la paix et la justice. Il faut que les options politiques soient claires et qu'on sache ce qu'on veut. Nos divisions sont en train de tâtonner, on voit les opérations militaires, on voit tout ça. Clairement, ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une option politique claire et que la communauté internationale ait également une option claire
Merci.
Pour mener des actions
Merci.
Pour sécuriser les populations.
Merci, sénateur Moïse Nyarugabo, en 15 secondes.
En 15 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être un petit groupe de mots. Je considère que la solution, c'est que le gouvernement doit prendre des bonnes décisions et les assumer. Mais si on continue à tâtonner, comme si on ne sait pas ce qu'on veut, on prendra toujours des mauvaises décisions, et quand on prendra des bonnes, on ne va pas les assumer, et donc, elles ne vont pas être appliquées, et on va rester
Merci, dans merci, monsieur le gouverneur Julien Paluku, en 15 secondes aussi.
Oui, le tâtonnement, c'est un fait normal d'un pays post-conflit. Donc, on ne doit pas réfléchir comme si on appartient à un pays qui a fait la paix depuis 10 ans, depuis 15 ans. Notre pays sort de la guerre il n'y a pas un mois.
Merci.
Donc, le tâtonnement, c'est un fait normal.
Merci, monsieur le gouverneur. C'est par vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous, nos chers invités. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Okapi, okapi.